Afrique, les infos à Washington.
Bonjour Nathalie Barge, pour vous présenter ce bulletin d'information. Dans un message à la nation diffusé par l'agence officielle algérienne APS, le président Abdelaziz Bouteflika a annoncé qu'il sera candidat à la présidentielle du 18 avril, lors de laquelle il briguera un cinquième mandat. Affaibli par les séquelles d'un AVC en 2013, Abdelaziz Bouteflika, 81 ans, au pouvoir depuis 1999, apparaît rarement et ne s'exprime plus en public. Ce même jour, le président a par ailleurs nommé un de ses conseillers à la tête du Conseil constitutionnel. L'ancien magistrat et ex-ministre Tayeb Belaïz a déjà occupé ce poste entre mars 2012 et septembre 2013. Il remplace Mourad Medelsi, décédé en janvier. Les candidats ont jusqu'au 3 mars pour déposer leur dossier au Conseil constitutionnel. Au Nigeria, un bureau de la commission électorale a été dévasté par un incendie, détruisant notamment des urnes et les cartes d'électeurs à une semaine des élections présidentielles et législatives du 16 février. L'incendie a eu lieu samedi soir dans le bureau électoral de la région de Kwanpan, dans l'état du Plateau. Selon un responsable de l'INEC dans cet état, un agent de sécurité ivre aurait provoqué l'incendie. Un incendie similaire a eu lieu la semaine dernière dans l'état d'Abia. Sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, le président rwandais Paul Kagame a passé le témoin à son homologue égyptien Abdel Fattah el-Sissi, qui a officiellement pris la présidence tournante de l'Union lors de la cérémonie d'ouverture. Après la présidence de M. Kagame, qui a travaillé sur les réformes de l'institution, son successeur devra se concentrer sur la sécurité, la paix et la reconstruction, des questions liées au thème 2019 consacré aux déplacements forcés sur le continent. Lors d'une rencontre avec le nouveau président de la RDC à Addis Abeba, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a félicité Félix Tshisekedi pour son accession à la magistrature suprême. Il a salué la volonté du chef de l'État congolais de collaborer avec les Nations Unies pour relever les défis du pays, a déclaré dans un communiqué le porte-parole du secrétaire général Stéphane Dujarric, précisant que les deux hommes ont échangé notamment sur la question de la MONUSCO.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
De violents combats en Syrie opposent l'alliance arabo-kurde soutenue par Washington aux djihadistes au lendemain du lancement de l'assaut final pour mettre un terme au califat autoproclamé du groupe État islamique. Des affrontements ont lieu dans la province orientale de Deir ez-Zor, ont indiqué les forces démocratiques syriennes. L'Observatoire syrien des droits de l'homme a confirmé l'existence de violents combats rapportant des raids aériens de la coalition. Les djihadistes sont pris en tenaille près de la frontière irakienne qui est totalement bouclée. Les États-Unis et la Corée du Nord discuteront encore dès le 17 février pour préparer le deuxième sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un à Hanoï, a annoncé Séoul. La veille, l'émissaire des États-Unis pour la Corée du Nord, Stephen Biegun, qui venait de se rendre à Pyongyang, avait souligné qu'il y avait encore du travail à faire. Selon le département d'État américain, les discussions ont porté sur une dénucléarisation complète, la transformation des relations États-Unis-Corée du Nord et la mise en place d'une paix durable sur la péninsule coréenne. Lors de leur première rencontre l'an dernier à Singapour, messieurs Kim et Trump avaient signé une déclaration imprécise sur la dénucléarisation. La Maison-Blanche n'a pas écarté l'éventualité d'un nouveau shutdown si aucun accord n'était trouvé avec les démocrates d'ici le 15 février sur le financement du mur que Donald Trump souhaite ériger à la frontière avec le Mexique. Nous ne voulons pas en arriver là, mais cette option est toujours ouverte pour le président et le restera, a déclaré sur Fox News le secrétaire général intérimaire de la Maison Blanche, Mick Mulvaney. Un accord avait été trouvé pour mettre fin à la paralysie partielle des administrations américaines après un record de 35 jours de blocage. On se retrouve dans une heure sur VOA Afrique. À tout à l'heure.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Et tout de suite, un programme en rediffusion sur VOA Afrique. Foi et tradition.
Vérité et doctrine.
Le dialogue des religions.
Sur la voie de l'Amérique.
Heureux d'être avec vous dans ce dialogue des religions. Eric Manilakis à la présentation. Et aujourd'hui, l'on parle de la science et de la religion. La science est-elle compatible avec la religion ou peut-elle faire tomber la religion? C'est l'objet de cette discussion dont plusieurs internautes ont déjà apporté leur point de vue, que l'on va sans doute partager. Au 19e siècle, avec l'athéisme, les deux réalités étaient antinomiques, mais avec le 20e et 21e siècle, la religion et la science sont devenues complémentaires. Même dans les régimes marxistes, les religions étaient omniprésentes. On cite l'exemple, le catholicisme en Pologne et l'orthodoxie en ex-Union soviétique. Selon Albert Einstein, la science sans religion est boiteuse, la religion sans science est aveugle. Que faut-il retenir de tout cela? Je suis en ligne à Bujumbura avec Paul Ngarambe, qui est très connu par les auditeurs de Dialogue des religions, à qui consacre son temps pour nous aider à nourrir la discussion. Des pratiques religieuses dans le monde qui nous entoure. Monsieur Paul Ngarambe, bonsoir.
Oui, bonsoir Eric.
Et bienvenue encore une fois à ce dialogue des religions.
Et merci à vous et merci encore et bonjour à nos auditeurs et auditrices.
Je rappelle que vous aimez la science et que surtout vous êtes un catholique pratiquant. Vous êtes un bon disciple de notre Einstein, n'est-ce pas?
Ah, ça, je l'aime beaucoup, celui-là. Je l'ai connu quand j'étais très jeune encore, au début des études secondaires.
Et vous avez influencé à être à la fois scientifique et croyant?
Alors, je ne dirais pas directement comme ça, mais quand même, les approches scientifiques et théologiques que j'ai eues ont été complétées par ce que j'avais su de lui dans la suite, et puis beaucoup d'autres scientifiques croyants et en même temps vraiment de très hauts scientifiques.
Parce que sa phrase résume d'une manière très brève la compatibilité à des deux réalités.
Oui. Est-ce que vous ne voulez pas la répéter peut-être à l'intention des auditeurs et auditrices?
Oui, la science sans religion est boiteuse, la religion sans science est aveugle. Voudriez-vous par exemple expliquer davantage pour une meilleure compréhension?
Alors, ce que je pourrais dire, ce qu'il dit là, je suis tout à fait d'accord, mais c'est très hautement, j'allais dire, philosophique. Je pourrais dire que si on pouvait vraiment très brièvement définir ce qu'est la science, très brièvement et très simplement, et aussi la religion, très simplement, très brièvement.
Vous avez la parole.
La science, c'est l'effort de l'être humain de comprendre le fonctionnement de ce qui existe, de l'existant, et pour ça il utilise l'intelligence. L'intelligence qui n'est pas du tout sa propre création, l'intelligence il l'a de par le créateur. Alors la religion, de son côté, la religion, c'est la relation de l'être humain avec le créateur, mais là l'initiative vient du créateur, c'est lui qui a mis dans l'être humain la soif, le désir de la religion. Ainsi donc, la relation que Einstein établit entre la science et la religion, et puis la science et la religion, se comprend très bien lorsque on peut définir très simplement ces deux notions, science et religion. J'ajouterais simplement pour terminer sur ça que pour comprendre la science, il faut l'intelligence. Et alors, il y a des gens très intelligents qui ont un quotient très élevé comme Einstein. Mais devant ce qu'il y a à comprendre dans l'univers, eh bien, le quotient de l'intellectuel le plus intelligent, c'est quelque chose qui tend vers zéro. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à comprendre dans l'univers. Et Einstein l'avait compris, et un autre, Socrate, l'avait aussi compris, qui disait que je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien.
Oui, y a un auditeur qui partage votre approche, et c'est Alphonse Mbouaki à Kinshasa qui dit « Normalement, les scientifiques doivent s'inspirer de Dieu avant d'établir leur théorie. C'est Dieu qui donne l'intelligence pour monter les principes scientifiques. » C'est son point de vue donc qui rejoint l'explication que vous venez de nous donner. Nous avons déjà des auditeurs en ligne, c'est Amadou, je pense.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, vous êtes au Cameroun.
Oui, bonsoir.
Oui, voilà.
Oui, précisément à Yaoundé.
Vous avez la parole.
Oui, effectivement, je disais tantôt que le scientifique peut se réjouir du fantasme de la science. Mais pour ma part, la science ne peut pas exister sans la religion, puisque la religion en elle-même est une science, peut bien exister, mais ne peut pas peut avoir aussi des complications dans son existence. Et je disais tantôt, quand je faisais l'école primaire, je me souviens bien de la question de mon professeur qui parlait de l'évolution de l'homme. Bon, il disait que l'homme a subi des évolutions. Il était d'abord singe. Il a subi des évolutions durant les âges, depuis l'âge de la pierre, en tout cas jusqu'à. Mais je lui ai posé la question de savoir qui est le premier homme sur la terre. Il m'a bien répondu, c'est Adam et ensuite Ève. Bon, la question qui surgit à cet instant, je lui ai posé la question de savoir, alors, si Adam était le premier homme sur terre, est-ce que Adam était singe? Et c'est là où la science de mon instituteur a eu ses limites. Mais je voudrais en savoir plus, si quelqu'un pourrait me répondre à cette question. Puisque si l'homme a subi des transformations, est-ce que l'homme la science en fait?
Ouais.
Si la science est d'accord avec la religion que le premier homme sur terre était Adam, alors ma question est celle-là. Est-ce que Adam était singe?
Oui. Amadou?
Oui,
gardez la ligne, on va demander au professeur Ngarambe de vous répondre directement.
Oui, alors, je pourrais dire ceci. Là, ce sont des théories. Il y a plusieurs théories. Ça, c'est la théorie de l'évolutionnisme, donc l'évolution. On croit que c'est ça. Alors, la Bible ou la religion n'enseigne rien de tout ça. La religion dit simplement que tout ce qui existe, eh bien, l'origine, c'est le créateur. Maintenant, il y a eu ces théories de l'évolutionnisme. Il peut y avoir beaucoup d'autres théories qui vont venir après, mais le fait est là, le plus important, le fait important, c'est que tout ce qui existe vient du créateur. Par quel mécanisme? Nous pouvons discuter, nous avons déjà trouvé ceci, nous pouvons encore trouver ceci. Les gens d'il y a longtemps avaient trouvé, nous continuons à chercher et trouver. En fait, nous ne comprendrons finalement la création que quand nous serons chez le créateur lui-même. Tant que nous sommes sur cette terre, nous ne pourrons pas vraiment comprendre l'existant, qu'est-ce que c'est exactement.
Donc vous lui donnez un rendez-vous dans le royaume de Dieu.
En quelque sorte, oui, parce que l'intelligence humaine n'est pas capable d'embrasser l'existant et de l'expliquer complètement. Ça ne peut être que des approches, que par des théories qui peuvent être complétées encore dans les années et dans les siècles à venir.
Amadou?
Oui. Excusez-moi, moi je voudrais demander au professeur,
oui.
Est-ce que si c'est le cas, alors pourquoi la science ne se rallie-t-il pas à la religion?
Professeur?
Je n'ai pas compris ce qu'il a dit.
Amadou, voudriez-vous répéter votre question?
Oui, je disais tantôt si la science regrette de cette théorie passée, pourquoi ne réalise-t-elle pas, ou bien pourquoi la science ne donne-t-elle pas la raison à la religion?
Pourquoi la...
Non, parce que ça c'est une des théories possibles. Il peut y avoir beaucoup d'autres théories. Alors, chaque fois, ça nous permet de comprendre un peu quelque chose de ce qui existe, mais la théorie ne nous permet pas de tout comprendre.
Mmh. Amadou?
Oui.
Il faut mériter le royaume de Dieu, hein, soyez-en sûr de suivre les commandements et d'être un bon croyant, avoir la foi pour, n'est-ce pas, pour un jour comprendre cela, n'est-ce pas?
Oui, parce que c'est seulement quand nous serons chez Dieu que nous comprendrons quelle est vraiment sa création, quelle est la pertinence. Tant que nous sommes sur cette terre, impossible de tout comprendre.
Mm-hmm. On a un autre auditeur en ligne, Oscar.
Oscar de la Contre-Afrique.
Oui, Oscar, vous avez la parole.
Oui, en fait, ce que je veux dire va compléter un peu ce que le professeur vient de dire.
Mm-hmm.
La science et la religion devraient en principe être très complémentaires.
Oui.
Parce qu'en créant l'univers, Dieu dote l'humanité de ces deux types de connaissances.
Mm-hmm.
La science pour comprendre l'univers et tout ce qui l'entoure, et la religion pour façonner l'homme à bien utiliser les produits mis en place par la science, pour ne pas que l'usage de ces produits scientifiques puisse un peu rendre le monde tordu, comme il a dit, pour ne pas que les découvertes scientifiques puissent détruire l'humanité. Alors pour cela, il faut la religion pour canaliser le comportement humain, ainsi de suite. Vous voyez à peu près ce que je veux dire. Donc, d'un côté, il y a la science. D'un autre côté, il y a la religion. Si les deux vont de pair, ils peuvent permettre réellement au monde de se développer comme il se doit. Mais comme il a dit, si la science va sans la religion, ça va détruire le monde, certainement. Et si la religion va aussi sans la science, c'est que c'est des pires utopies, parce qu'il n'y aura pas une méthode appropriée pour cette religion. Donc, il devait y avoir harmonie entre science et la religion pour un bon développement, un bon essor de l'humanité, puisque la science vient de Dieu.
Mm-hmm.
Voyant comment les planètes, les astres sont bien disposés de telle sorte à ne pas entrer en collision, ça veut dire Dieu lui-même était un grand scientifique qui essaie de mettre des lois scientifiques en marche pour la création de l'humanité. Et alors, pour bien comprendre ça, il doit utiliser de l'intelligence qui vient aussi de Dieu à bien comprendre cette création de l'univers. Et maintenant, la religion qui essaie de permettre à l'homme d'utiliser bien les produits scientifiques à bon escient.
Merci. Professeur, en 30 secondes, est-ce vrai que Dieu est un scientifique?
Non, il est beaucoup plus que ça. C'est parce que que ce soit la science, ça c'est pour nous ici dans l'univers, la foi aussi, la religion aussi sur cette terre. Et Dieu, le créateur, il est vraiment au-delà de la religion, il est au-delà de la science, parce que ce qui se trouve là, c'est pour nous aider, la religion, pour nous aider à plus ou moins comprendre qui il est et aller vers lui. Et la science, c'est pour tâcher de nous faire comprendre, grâce à l'intelligence qu'il nous a donnée, pour bien réaliser un tout petit peu ce qu'il a fait, et nous sommes en train d'aller vers lui.
Vous êtes à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Oui, nous avons Oscar Djossou au Bénin qui a une position tout à fait différente. Oscar Djossou, bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Oui, vous avez l'opportunité de donner votre position et le professeur va réagir immédiatement.
Ok, ce que moi, ma position est très simple. Moi, je vois que la religion n'est pas du tout compatible à la science, en ce sens que la religion, ça fait de la foi et de la croyance en Dieu. Alors, lorsque nous prenons la science, c'est purement centralisé sur la pensée humaine, c'est l'œuvre humaine. Et lorsque nous cherchons à les mettre ensemble, c'est rien que de la contradiction, parce que celui qui se base sur et voilà, la religion ne serait pas en mesure de croire pour, à l'évolution de la science. Et sur certains plans, je prends l'exemple de l'humanité, l'existence de l'homme et ce qu'on nous a enseigné à l'école et ce que dit la Bible, on voit en même temps que c'est deux choses différentes. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est deux choses différentes. Et puis, on nous a dit que l'homme est apparu suite à l'évolution de l'espèce animale, ou bien. Mais la Bible nous dit contrairement que bon, l'homme a été fabriqué par comment on appelle, et le sable, on ne sait pas comment ça s'est. Voyez, voir que sur ce temps, la science est sur sa base dans l'homme, et que la religion, c'est Dieu. Et Dieu, nous ne le voyons pas. On voit en même temps les effets de la science. Ce qui fait que moi, je donne, sans vous demander, moi, je donne plus de priorité à la science que la religion.
Oui, Oscar, je donne l'occasion au professeur de commenter votre point de vue. Je pense que vous dites la même chose, mais il y a une petite nuance, n'est-ce pas, professeur?
Non, il y a même une grande nuance. C'est parce que mon collègue là, du Bénin, il veut trouver dans la Bible des vérités scientifiques. Or, dans la Bible, ce qu'il y a, c'est plutôt des enseignements à rapport avec la foi, à rapport avec la religion. La Bible n'est pas là en train de nous enseigner la science, même s'il y a des rudiments de science là-dedans. Alors, de son côté, la science, ce n'est pas dans la Bible qu'il faut aller la chercher, vraiment pas directement, mais c'est l'effort de l'être humain de comprendre le fonctionnement de ce qui existe. Et cet effort de comprendre ce qui existe, ce n'est pas lui qui a trouvé cette soif vient du Créateur. Alors je dirais que, à mon collègue du Bénin, moi, je suis, la preuve contre ce qu'il dit, parce que moi, à la fois, je suis un homme scientifique, je suis un professeur d'université, et en même temps, moi, je suis un croyant absolument convaincu, et moi, je crois vraiment en Dieu, et je trouve qu'entre les deux, religion et science, il n'y a aucune contradiction, bien au contraire.
Mmh. Oui, professeur, nous avons un auditeur qui dit que la science, qu'il y a les religions comme l'islam qui peuvent être compatibles avec la science, mais non pas la plupart des religions. Qu'est-ce que vous en dites avant de recevoir un autre auditeur qui est déjà en ligne?
Alors, les religions sont un effort de l'homme qui a soif de Dieu, et cette soif vient de Dieu lui-même. C'est vrai que toutes les religions ne s'équivalent pas, mais il ne faut pas aller commencer maintenant les comparer ou ne pas les comparer, non, ce n'est pas ça, mais il faut admirer cette quête de la personne humaine, cette quête de l'être humain qui ne se trouve pas dans les arbres, qui ne se trouve pas dans les animaux, qui se trouve dans les pierres, la quête de l'être humain de comprendre ce qui l'entoure, l'existant, mais également de comprendre d'où il vient, le créateur de tout ça. Alors, on pourrait y aller maintenant voir dans différentes religions et essayer de comprendre. Mais là,
professeur,
il ne s'agit pas de comprendre différentes religions, simplement de voir ce fait.
Avec vous, Eric Manirakiza, à Dialogue des religions. Notre invité, c'est le professeur Paul Ngarambe à Bujumbura. Professeur, vous êtes là, vous m'entendez?
Je suis en ligne, je vous entends et merci bien.
Voilà, il y a un auditeur qui a posté un message sur notre page Facebook, c'est Robert Mukandila. Il dit bonjour à tous, ce Robert Rennes, pour moi, la science ne peut jamais ni faire tomber la religion, ni encore marcher de pair avec celle-ci, car la science, c'est l'homme qui la fait vivre, mais la religion fait vivre la science, et la science deviendrait une ruine pour l'âme et détruirait le monde. La science a donc besoin de la religion afin de mener à bien ses investigations, réussir avec prouesse dans son entreprise de l'amélioration, tenant comme de l'éthique des conditions de l'homme. En somme, la science pour la science risque d'ignorer complètement la religion et s'auto-détruire après avoir détruit l'homme, son créateur. Et il faut tenir compte de la religion afin de puiser en elle toutes les valeurs possibles pouvant la rendre consciente de ses actes et prouesses, car dit-on, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est la citation que vous avez citée tout à l'heure, professeur. Un petit commentaire sur l'avis de l'auditeur.
Oui, je trouve que l'auditeur a raison. Dire que la science pourrait arriver à détruire la religion, c'est impossible. Ce n'est pas possible parce que la science, c'est vraiment l'effort de l'homme de comprendre ce qui l'entoure. Mais il le comprend, il essaie de le comprendre en utilisant l'intelligence. L'intelligence qui n'est pas du tout sa propre création, l'intelligence qui lui vient du Créateur. Parce que le Créateur existe bel et bien. Il est.
Il y a Hubert Dabonnet qui dit « La science reste impuissante devant les mystères, donc elle ne peut pas faire tomber la religion. » Et il y a Kam Ijda El-Limak qui dit « La science ne peut pas faire tomber la religion, quel que soit le développement scientifique dans le pays, dans le continent ou même du monde. » Les hommes resteront des religieux, professeur.
Alors, c'est un peu aussi ce que je disais dans un langage un peu différent. Je disais que notre planète possède des hommes et des femmes très hautement intelligents. Mais alors, face à ce qui peut être connu dans l'univers, eh bien, la personne la plus intelligente de notre planète, eh bien, son quotient intellectuel, c'est quelque chose qui tend vers zéro. Et même si nous mettons ensemble toutes nos intelligences pour essayer de comprendre l'univers, jamais nous n'arriverons vraiment à l'embrasser complètement et à comprendre. Et donc, je suis d'accord avec la thèse que la science n'est absolument pas capable de détruire la religion. C'est impossible.
Il y a Jesse Kikoko qui, lui, rejette toute compatibilité entre la religion et la science. Son argument est celui-ci: jamais c'est la religion qui est la mère de la science. Êtes-vous d'accord?
Bon, là, il faudrait peut-être quand même un peu nuancer, parce que à la fois pour la science comme pour la religion, la personne centrale, c'est l'être humain. Donc, les deux s'adressent à l'être humain, mais c'est quand même le Créateur, quelque part, qui règle en réalité tout ça, parce que la connaissance vient du Créateur, et la relation avec lui, c'est encore une fois, cela vient du Créateur. Alors, je ne crois pas qu'il faille vraiment mettre un antagonisme entre les deux, sauf quand les êtres humains, ils veulent mettre ça pour des raisons qui leur sont propres, mais en elles-mêmes, ces deux réalités ne devraient pas s'opposer, bien au contraire. Et elles seraient plutôt complémentaires.
Voilà, Léo Kioma dit « La science a raison, la religion est une croyance sans fait réel, tandis que la science, nous la vivons, nous la voyons et observons des faits réalistes. » Christ Bernet dit au Azola « La science peut faire tomber la religion faite de main d'homme et non la religion du cœur. » Professeur.
Ah, oui, alors, la religion faite de main d'homme. Alors, est-ce que les humains peuvent fabriquer une religion? Oui, alors ça, c'est peut-être la manipulation. Parce que sinon, la véritable religion, elle vient du Créateur. Et c'est un don que le Créateur donne à l'homme, la personne humaine, l'être humain. Maintenant, cet être humain peut ne pas être capable de tout comprendre ou d'assimiler tout ça immédiatement. Mais donc, moi, je me dis que la véritable religion ne peut pas être un handicap pour l'homme, bien au contraire. Et la véritable religion l'ouvre aussi vers les connaissances scientifiques, donc la connaissance du monde qui l'entoure ou de l'univers qui l'entoure. Réellement, la science, elle nous aide, c'est vrai, à comprendre, ça nous permet de comprendre et d'essayer de vivre en harmonie avec ce que nous avons découvert. La religion, c'est notre relation
avec le Créateur, celui qui a créé pas simplement le monde où nous sommes, mais l'univers, parce que l'univers c'est beaucoup plus grand que le monde où nous sommes. On raconte, etc., etc., mais moi pour ma part...